Le magazine Femina de VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge avec vous, toujours ravie de vous accompagner pour un petit tour d'horizon des droits de l'homme, dont ceux des femmes.
Paroles de femmes.
À toutes celles qui vivent dans l'illusion que l'égalité est acquise et que l'histoire ne revient pas en arrière, je voudrais dire que rien n'est plus précaire que les droits des femmes. Dixit Benoît Groot dans son essai sur la condition des femmes, ainsi soit-elle. La journaliste et romancière française Benoît Groot, qui nous a quittés le 20 juin au bel âge de 96 ans. Une féministe à part entière qui a manié la plume avec brio pour défendre une cause sans âge, une cause qui n'en finit pas de durer depuis des millénaires. John Lydon nous en dit plus.
Benoît Groot devient féministe en 1968. Membre du jury du prix Femina, elle participe à la fondation d'un mensuel féministe, F Magazine, dont elle sera l'éditorialiste jusqu'en 1982. En 1984, elle est chargée par Yvette Roudy, la ministre française des droits de la femme, de présider la commission des terminologies pour la féminisation des noms. « Quand il n'y a pas de mots pour nous, c'est que nous n'existons pas », expliquait-elle. Elle se heurte à l'opposition de l'Académie française et se fait traiter de précieuse et ridicule. Elle a écrit plusieurs romans, dont « Les trois quarts du temps », un récit dénonçant la phallocratie. En 2008, paraît son autobiographie intitulée « Mon évasion », dans laquelle elle confie avoir vécu une interminable course d'obstacles. En 2013, elle publie une biographie de la révolutionnaire Olympe de Gouges, pionnière du féminisme français.
Direction l'Afrique pour une discussion avec une ministre militante des droits humains, Sanaba Kaba, ministre guinéenne de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Madame la ministre, en Guinée, lors d'un conseil des ministres, il a été décidé notamment de renforcer la lutte pour l'élimination de la violence contre les femmes, notamment l'éradication de l'excision et des mariages d'enfants. Pourriez-vous nous parler de cette mesure, la renforcer, car elle n'était pas assez efficace, n'est-ce pas?
Oui, exactement. Vous savez que la Guinée, quand même, fait partie des tout premiers pays qui ont accepté de commencer à défendre les droits des femmes en général et en particulier le droit des enfants et plus singulièrement les mutilations génitales féminines. Et il y avait un protocole d'accord pour dire que toute personne qui serait prise en flagrant délit de mutilation génitale féminine, qui soit personnel du ministère de la Santé, doit être automatiquement radiée de la fonction publique. Au ministère de la Justice, que toute personne qui sera prise en flagrant délit de mutilation génitale féminine doit être condamnée et que des sentences équivalent à sa forfaiture doivent être appliquées sur lui pour défendre les droits des victimes. Le ministère de la Sécurité de faire de la répression, de dénoncer, et les ONG qui avaient la latitude de dénoncer, de se porter partie civile. Tous ces instruments existent dans notre pays, mais l'application faisait défaut. Et pour que ces instruments soient mis à appliquer, il fallait quand même un meilleur accompagnement du gouvernement. C'est pourquoi mon ministère a bien voulu faire un plaidoyer au niveau du gouvernement qui a été accueilli très favorablement par le conseil interministériel et que le président de la République lui-même est venu renforcer par cette déclaration qui a été faite lors du dernier conseil des ministres présidé par le président de la République. Et tout le gouvernement à accompagner mon ministère pour faire appliquer toutes les dispositions nécessaires que nous avons envisagées pour mettre fin à ces pratiques qui ne font que dégrader la santé de la femme et de la petite fille.
Alors, on reviendra sur le mariage des enfants, justement. Madame la ministre, est-ce que l'interdiction de l'excision est inscrite dans la loi en Guinée?
Oui, c'est bel et bien inscrit que les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits de la femme et de la petite fille.
Alors, au niveau des mariages d'enfants, pourriez-vous nous dire quels sont les âges à partir desquels une jeune femme et un jeune homme peuvent se marier ?
Dans la loi, chez nous, en Guinée, le jeune garçon doit se marier à 18 ans et la petite fille à 17 ans. Et le président n'a pas manqué de dire dans son intervention, il n'a pas hésité d'interpeller quand même les religieux pour dire que la plupart des mariages d'enfants qui se font sont célébrés par ces religieux. Donc, dans notre constitution, le mariage d'enfants est interdit parce que c'est à partir de 17 ans. Et nous, en tant que ministère de l'Action sociale, de la promotion des femmes et des enfants, nous sommes en train vraiment de se battre aujourd'hui pour avoir tous les acteurs impliqués dans cette lutte pour que nous conjuguons les efforts et que nous parlons d'une même langue afin de radier totalement ces fléaux qui nous font dégrader l'intégrité physique et morale de la femme.
Est-ce que vous avez l'intention, en Guinée notamment, de rehausser l'âge du mariage pour les filles, comme c'est le cas dans plusieurs pays, hein? Pourquoi un âge différent pour les garçons et pour les filles, hein?
Pour le moment, malgré que nous avons révisé quand même le code civil, nous avons quand même la volonté que ce qui existe déjà soit appliqué dans toute sa rigueur. Si la première n'est pas appliquée, ça ne sert à rien pour moi de rajouter encore autre chose. Mais il faut faire appliquer le premier et peut-être dans le futur, voir ce qu'on peut apporter comme amélioration. C'est pourquoi d'ailleurs en Guinée, tout le mois de juin est dédié aux enfants guinéens. Et cette année, nous avons trouvé un thème national, c'est-à-dire violence faite aux femmes et aux filles, notamment le mariage précoce, les mutilations génitales féminines et la déscolarisation. Et ainsi que le viol. Parce que ces derniers temps, quand même, nous assistons à beaucoup de dénonciations de viols dans notre pays, surtout sur les bébés. Parce que moi, je me dis bébé, quand il y a viol sur les enfants de 2 ans à 7 ans, moi, je me dis vraiment que c'est des bébés et que c'est des malades mentaux qui peuvent agir ainsi.
Madame la ministre, pour revenir sur le mariage des enfants, vous avez encore beaucoup en Guinée de mariages de filles, de petites filles de 12 ans, de 13 ans. Ça existe encore beaucoup, ça, dans certaines régions. Et si oui, dans quelle région en particulier ?
Je vous avoue que généralement, ces problèmes existent dans toutes les régions, mais il y a quand même un pourcentage un peu plus élevé dans la région de la Moyenne Guinée et de la Haute Guinée. Donc nous sommes en train quand même de se battre pour trouver des voies et des moyens, des mécanismes, l'implication de la communauté, des approches avec les familles pour expliquer aux parents mieux et mieux éduquer son enfant, lui donner une formation adéquate, l'éduquer même sexuellement, parce que chez nous, le sexe, quand même, c'est un tabou. Oui. Une maman qui doit parler du sexe à sa fille et pour lui éviter la grossesse, c'est tout un problème qu'il n'en trouvera pas. Et mieux vaut mettre l'évidence en vigueur, dire que ma fille a tel âge aujourd'hui, elle est susceptible d'utiliser le sexe, donc il faut quand même la mettre à l'abri et lui éviter les grossesses, les maladies sexuellement transmissibles, que de se débarrasser d'elle, la mettre dans un mariage où elle va revenir avec d'autres charges supplémentaires encore envers vous et plus apte maintenant à développer ses facultés intellectuelles ou à s'adonner à une formation compétente, la déception étant là. Donc ça crée plus de problèmes, les conséquences du mariage précoce que la peur d'avoir une fille qui tombe enceinte en famille.
Madame la ministre, je reviens sur l'excision. Vous savez que récemment, l'OMS a demandé à tout le personnel médical dans le monde de refuser strictement de pratiquer des excisions. Parce que l'on sait qu'il y avait une politique à un moment donné qui disait « bon, les pays commencent à l'interdire, mais on essaye d'éviter les dégâts, on préconise à certains parents d'amener leurs enfants à l'hôpital, comme ça on est sûr que ça va être bien fait, mais maintenant ça c'est une grande première, c'est l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui le dit, qui recommande, qui demande à tous les médecins, à tout le personnel médical de ne plus pratiquer d'excision du tout.
Bon, je crois que je peux même dire que la Guinée était en avance par rapport à l'OMS parce qu'il y a un arrêté conjoint quand même que les différents ministères ont signé en Guinée, dont le ministère de la Santé s'est engagé dans ce sens. Donc, ce n'est pas une nouveauté pour nous, même si ça ne s'applique pas à 100%, mais aujourd'hui, la politique est de faire appliquer cet acte dans toute sa rigueur.
Donc, dans les hôpitaux en Guinée, on n'a pas le droit, on n'a plus le droit de pratiquer des excisions.
Pas du tout. Ceux qui le font, peut-être, vont le faire en catimini, mais s'ils sont interceptés, ils seront purement et carrément radiés de la fonction publique et avec des poursuites à l'appui.
Alors, ce renforcement de lutte contre les violences faites aux femmes, c'est une volonté politique au plus haut niveau en Guinée, hein, actuellement. Alors, comment allez-vous transformer ces engagements en actions très concrètes, Madame la Ministre ?
C'est qu'il faut prendre des sanctions. Si le chef de l'État s'engage, et la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur. Tout contrevenant face aux dispositions préalablement établies pour lutter contre les mutilations génitales féminines doit être purement et simplement puni, selon la rigueur de la loi. Et avec cela, nous pouvons aller de loin parce que le moment est favorable. Il faut profiter de ce moment parce que c'est une première fois quand même qu'on en parle au Conseil des ministres. Depuis 30 ans que le CPTAF se bat, depuis 30 ans que beaucoup d'organisations de la société civile, des groupements féminins, des associations féminines se battent en Guinée, c'est une première fois qu'un président de la République en Conseil des ministres, après l'avoir dit publiquement devant les jeunes dans une des plus grandes universités de notre pays, dénonce publiquement les mutilations génitales féminines.
Est-ce qu'il y a déjà eu des jugements exemplaires en Guinée, notamment sur l'excision et le mariage forcé d'enfants ?
Bon, pour le mariage d'enfants, non, pas pour
pas
le moment,
encore.
Mais pour
ouais.
l'excision, il y a eu beaucoup de jugements entre 2014 et 2015, même si les sentences ne sont pas confortables encore, parce que c'était des sentences dissuasives. Mais maintenant, nous allons vraiment en profondeur. Selon la forfaiture, on sanctionne les coupables. Ça, c'est la vitesse supérieure que nous allons déclencher maintenant.
Vous voulez dire que les sentences seront plus sévères ?
Exactement, exactement.
Alors justement, aujourd'hui, Exactement. Quelles sont les sentences et qu'est-ce que vous préconisez ?
Bon, c'est à la justice de définir cela. La justice, quand même, a des grilles de sentences par rapport aux actes. Je crois que si c'est un acte criminel, si c'est un acte violent, donc ça dépendra quand même de la grille de la justice.
Mais par rapport au jugement qu'il y a déjà eu, quel type de sentence avez-vous eu ? Est-ce que c'était 2 mois de prison, 3 ans de prison ?
C'était vraiment dissuasif parce que c'était 3 mois de prison avec sursis, avec une petite amende. Mais je crois que nous avons dépassé aujourd'hui, c'est nouveau. Le ministre de la Justice est très engagé. Le mois passé, le ministre de la Justice, le ministre de la Santé et moi-même, nous étions à Dakar pour une rencontre des échanges et harmonisation des stratégies de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles à Dakar. Je crois qu'après cette rencontre, le ministre est vraiment revenu reconforté dans sa position d'aider le ministère de l'Action sociale pour défendre les droits des enfants et des petites filles en particulier.
Et lorsque vous parlez de sentences, ce sont des peines qui pourraient s'appliquer non seulement aux exciseuses, mais aux parents, bien sûr, c'est ça ?
Exactement. Tous ceux qui seront impliqués dans l'excision seront condamnés, seront jugés et condamnés, selon la loi.
Le mariage d'enfants, selon la loi guinéenne, il est interdit de toute façon.
Le mariage d'enfants est interdit.
Oui.
Nous allons harmoniser quand même les dispositions qu'il faut appliquer sur le terrain pour éviter tous ces problèmes avec le ministère de la Justice. Nous avons volonté de le faire le plus rapidement possible et nous allons mettre le mois de juin, le mois de l'enfant, pour mettre plusieurs dispositions en place. Nous allons passer d'abord des communications pour dire aux gens que vraiment la tendance a changé, les dispositions ont changé et chacun doit se soumettre à la loi. On va informer d'abord parce que nos populations sont à plus de 50% analphabètes, c'est des gens qui ne connaissent pas la loi, c'est des gens qui ne connaissent pas les lois en vigueur, c'est des gens qui ne connaissent pas ce qui est praticable, ce qui n'est pas praticable. Donc nous avons une vaste campagne de sensibilisation et d'information et après cela, je pense que nous allons vraiment démarrer la machine de la répression.
Alors, quand vous parlez de répression, l'on peut s'attendre dans les prochains mois, éventuellement, que des parents soient condamnés pour avoir marié une petite fille de 13 ans.
Même les officiers d'état civil qui célèbrent ces mariages de ces genres, personne ne sera à l'abri. Personne.
Mais il faut un contrôle vraiment très étendu sur le territoire. Est-ce que vous allez pouvoir vous doter de tels moyens ?
Oui, exactement, parce que avec le virus Ebola, on avait recruté des assistants sociaux qui étaient là seulement pour protéger les enfants qui sont victimes de la maladie ou qui ont des parents qui ont été victimes ou des enfants orphelins. Mais aujourd'hui, nous avons l'intention d'utiliser ces assistants sociaux pour nous accompagner dans la lutte contre tous ces fléaux. c'est des gens qui vont faire des alertes précoces, qui vont donner des informations et qui vont vraiment alerter les services qu'il faut et les dispositions seront prises. Aujourd'hui, tous les cas de viol qu'on est en train de dénoncer, ce sont nos chargés de l'enfant dans les différentes communes qui sont en train de nous remonter les informations. Donc, on est en train de renforcer la structure du ministère au niveau du concentré pour pouvoir prendre ce problème en charge le plus rapidement possible.
Merci beaucoup, Madame la ministre Sanaba Kabar, ministre guinéenne de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. À très bientôt. Au revoir, Madame la ministre.
Merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi.
Parole de femme.
Qu'est-ce qui leur prend soudain aux femmes ? Voilà qu'elles se mettent toutes à écrire des livres. Qu'ont-elles donc à dire de si important ? Demandait récemment un hebdomadaire qui ne s'était jamais posé la question de savoir pourquoi les hommes écrivaient, eux, depuis 2000 ans, et ce qu'il leur restait encore à dire. C'est une réflexion de la romancière française Benoîte Groot, décédée le 20 juin dernier, dans son essai sur la condition des femmes, Ainsi soit-elle. Revenons en Guinée, où, comme dans plusieurs pays d'Afrique subsaharienne, la majorité des femmes ne décident pas de leur santé reproductive. Les sujets qui portent sur le sexe sont tabous dans de nombreux ménages, une situation entretenue voire aggravée par des pesanteurs sociales. Je vous propose d'écouter un reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
Les hommes, pour la plupart, n'acceptent pas l'espacement des naissances par la prise des produits contraceptifs. C'est le cas d'Abdoulaye, commerçant.
Moi, j'apprécie pas beaucoup parce que quand le désir est là, j'ai envie de le faire et je dois le faire. Raison pour laquelle je me suis marié, je sors pas chercher les femmes ailleurs. Autant que Dieu nous donne, autant nous recevrons à bras ouverts ces enfants. Donc du coup, la limitation de ces enfants, moi, je l'aime pas. Je l'aime pas trop. Quand on se réfère à la religion, c'est aller à l'encontre de la religion.
La religion, l'un des facteurs défavorables à la planification familiale.
La plupart de nos femmes sont analphabètes, donc elles ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs, surtout leurs droits.
Boubacar Sidi Diallo, médecin-chef adjoint de la maternité du centre médical communal de Ratoma, entend au quotidien les plaintes des femmes.
Il y a beaucoup de femmes qui ont peur de leur mari. Quand ils leur parlent de la planification familiale, elles vont dire « Attendez docteur, je vais aller d'abord demander à mon mari ». Est-ce qu'il est d'accord? Ça veut dire que les femmes ont peur de leur mari pour la planification familiale. Et les maris pensent que quand la femme se planifie, c'est pour arrêter de faire les enfants. On fait penser aux femmes que quand tu te planifies, tu ne vas plus faire les enfants. Donc c'est ce qui les inquiète souvent, elles refusent de se planifier.
En Guinée, le taux d'analphabétisme et de polygamie reste élevé. Environ 90% des femmes en union n'utilisent aucune méthode contraceptive. Et parmi ces femmes, 58% n'ont pas l'intention de les utiliser dans le futur selon une enquête démographique de la santé. Celles qui voudraient faire la planification le font loin des regards indiscrets.
Donc souvent, je me casse de mon mari pour faire mes planifications avec l'avis de mon médecin. Parce que mon mari, bon, il n'y a pas une communication sexuelle entre nous. Il ne me demande pas quand est-ce que je veux avoir des enfants, quand est-ce que je veux faire l'amour. Vous voyez, c'est vraiment compliqué dans le foyer.
C'est beaucoup plus compliqué pour cette autre dame, la quarantaine.
Il me dit à chaque fois, si tu te planifies, que Dieu te fasse ça, que Dieu te fasse ça. Donc, il me ménage chaque fois, même au moment où je ne veux pas, comme si les jours de danger, là, je ne veux pas avoir de rapport, c'est forcé parce que il y a une certaine idéologie dans la tête de nous femmes africaines, surtout musulmanes, que si ton mari te demande le lit, si tu refuses, que Dieu va te maudire. Donc, avec cette idée-là dans la tête, on est obligé, même si on ne veut pas avoir en ce moment d'enfant.
Faire des enfants, parfois sans le vouloir, c'est la triste situation que vivent plusieurs femmes en Guinée. Mais si elles sont nombreuses à ne pas décider de leur vie sexuelle, il y en a par contre qui obligent l'homme à faire plusieurs enfants, surtout quand elles sont deux, voire trois à la maison. Plus d'enfants, plus de parts d'héritage se défendent-elles? Conakry, Zakaria Camara, pour la Voix de l'Amérique.
On quitte la Guinée à vol d'oiseau. On survole la Côte d'Ivoire et le Ghana pour se rendre au Togo. Je vous propose, avant de nous quitter, de partir à la découverte d'un regroupement de dames qui, par l'entremise de l'application mobile WhatsApp, veut impacter la société togolaise. Kayilosson Alomé.
Depuis quelque temps, l'application mobile de messagerie appelée WhatsApp et utilisable sur les smartphones devient de plus en plus un outil important de communication au Togo. Aimé Abratenou, entrepreneur responsable d'une unité de recyclage de sachets plastiques en maroquinerie, a eu l'ingénieuse idée de rassembler des femmes au sein de son groupe WhatsApp, dénommé Yes Madame.
WhatsApp, c'est quand même un outil de communication qui professionnellement est très efficace. Et donc, je me suis dit, en créant un réseau où je fédère toutes les compétences, tout ce qui valorise la femme togolaise, si je fédère tout ça, on peut changer notre quotidien, que ça soit promouvoir nos propres activités au sein du groupe, parce qu'il y a quand même 70 femmes aujourd'hui sur le groupe Yes Madame. Mettre en avant une d'entre nous qui a besoin d'être soutenue, c'est de la solidarité féminine, mais au-delà de ça, c'est de la valorisation de nos compétences, de nos savoir-faire.
Dans ce groupe purement féminin, on y retrouve des entrepreneurs aux communicatrices, en passant par des créatrices de mode, des chefs cuisiniers ou encore des agents de santé. Yes Madame est donc un groupe où se concentrent presque toutes les couches sociales togolaises. Au-delà du partage du contenu multimédia comme des sons, textes et images qui se rapportent à l'actualité et des sujets d'intérêt généraux, qu'est-ce qui retient l'attention dans le groupe Yes Madame?
Le groupe m'apporte beaucoup parce que déjà avec toutes ces femmes, quand on présente un produit, on a des remarques. Déjà, on a une idée de ce que le client peut penser de ton produit.
Ce groupe m'apporte énormément de plus parce que ce sont des femmes qui s'efforcent d'évoluer, de faire valoir le leadership féminin.
Yes Madame est un groupe extraordinaire parce qu'on parle vraiment de choses importantes qui nous touchent aujourd'hui.
J'étais très fière d'être invitée dans le groupe Yes Madame parce que j'y ai retrouvé des dames qui, comme moi, ont cette passion pour le développement social. Et oui, je suis Yes Madame à fond et j'espère qu'on pourra porter haut le nom de la femme togolaise.
Selon les initiatrices, Yes Madame ambitionne réduire le degré encore élevé de la masculinisation de la société togolaise. Aimé Abratenou, administratrice principale de Yes Madame.
On a encore beaucoup de choses à faire pour trouver notre place dans cette société, qu'on le veut ou non, qui est bien masculine. Il faut vraiment qu'on se mette ensemble, il faut qu'on soit solidaires. Prendre les hommes comme partenaires, pas du tout les combattre, mais il faut qu'on se comprenne, qu'on s'entraide pour pouvoir y arriver. C'est aussi une force pour nous, parce qu'ensemble, on est plus fort, pour pouvoir faire du lobbying sur des questions qui nous tiennent à cœur pour la promotion féminine.
Une promotion de la gente féminine qui ne veut pas fermer les yeux sur certains fléaux, comme le décapage de la peau. Nous écoutons Béatrice Alovor du groupe.
Si le groupe Yes Madame a voulu s'attaquer à ce fléau qu'est la dépigmentation aujourd'hui de la jeune fille en Afrique, c'est que ça devient un réel problème. Et on voit nos très très jeunes sœurs qui veulent ressembler à toutes celles qui sont claires. Pourquoi? Je ne sais pas. Est-ce que ça leur permet de se sentir plus jolies? Est-ce que ça leur permet de réussir socialement? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la grande mode et c'est bien ancré. Tout ce qui décape est assez agressif pour la peau. Et le plus grand organe que l'on a, c'est cette peau qui est le packaging de tout ce qui se trouve à l'intérieur.
À la question de savoir si elle n'envisage pas quitter un jour le groupe, la Yes Nathalie Panté estime qu'il serait une monumentale erreur de sa part.
Oh, sortie du groupe, là, c'est retourné, je dirais, 10 ans en arrière. Parce que chaque jour, on découvre beaucoup de choses. Donc, sortie de ce groupe, franchement, je ne pense pas.
Les promotrices de Yes Madame souhaitent ratisser large en ayant en leur sein plus de femmes, mais se heurtent à l'analphabétisme de ces dernières qui pourtant apportent une forte contribution à la société togolaise. Pour y parvenir, elles envisagent travailler avec des développeurs d'applications afin de créer une application adaptée à ces femmes non alphabétisées ou déscolarisées à bas âge. Qui sait, demain, diront-elles peut-être « Yes, madame ». Kayilosson Lomé, VOA Afrique.
Un grand merci à Kayilosson et Zakaria Camara pour les reportages au Togo et en Guinée. Merci également à toutes nos radios partenaires africaines et bien sûr à vous toutes et à vous tous, chères auditrices et chers auditeurs de VOA Afrique. Nathalie Barge pour le magazine Au Féminin. À très bientôt.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you. Round two, you open your eyes. Flat on your back, you look to the sky. You're out.